et médias francophones publics.
Radio France,
RTBF,
Radio-Télévision Suisse,
Radio-Canada.
Et bonjour à tous, bienvenue dans la librairie francophone. En ce début d'année, une émission dense, pleine de livres, pleine de culture et de moments de radio. Nous allons vous faire voyager, mais aussi vous faire réfléchir sur la vie, de l'émotion, du rire, de l'impertinence et de l'inattendu. C'est le cas de le dire aujourd'hui. Voici le sommaire de cette édition.
La librairie francophone, Emmanuel Queyrade.
C'est un roman suisse qui nous emmène en Afrique avec un auteur confirmé, chouchou des critiques littéraires helvétiques et plus largement francophone. Max Loeb publie un court roman improbable, un livre qui va forcément dérouter, voire énerver les libraires et les lecteurs. Elle publie l'un des romans événements de cette rentrée littéraire de janvier. Gaël Josse ose en cette période un livre sur la saturation personnelle et professionnelle. Nous vous conseillerons deux livres de poche à lire absolument, la Belge Amélie Nothomb et son regard sur la crucifixion de Jésus avec son génial roman Soif et un récit émouvant du français Régis Geoffrey sur son papa et plus largement sur la capacité de devenir père. Et voici les libraires qui vont nous accompagner tout au long de ce programme. Bonjour Katia Courteau.
Bonjour Emmanuel.
Vous représentez le Canada, libraire au port de tête à Montréal. Et on commence tout de suite avec vous Katia et avec une anecdote de libraire.
Oui. En fait, qui nous parle un peu de la bienveillance de la clientèle envers nous, libraires, mais qui montre aussi que les librairies sont parfois des lieux d'étourderie et de distraction. Imaginez, il y a quelques années, une gentille dame s'est avancée vers moi au comptoir caisse pour payer ses livres en me disant d'un air mais ravi à quel point elle était heureuse de voir que les patrons permettaient aux caissières d'être assises en travaillant. Et moi de répondre, « Mais madame, je suis debout. » Oui, je suis assez petite. Ça nous a permis de beaux éclats de rire, vraiment.
Vous mesurez combien, Katia?
Oh, on ne rentrera pas dans ces détails-là, Emmanuel.
Bon, faites attention à ce que vous dites à vos libraires. Oui, c'est sûr qu'on peut faire des gaffes. Comme ça, j'en fais plein des gaffes, moi. Je peux vous dire, à la radio, j'en fais plein. C'est pas si grave. Mais, confidence au passage. Merci, Katia. Bonjour, Dominique Bressou.
Bonjour, Emmanuel.
Vous êtes gaffeuse, vous?
Ah oui.
Ah oui, oui, c'est vrai, je confirme. Vous êtes libraire dans la librairie Une Petite Prose à Boudry, vous représentez donc la Suisse. Thomas Hausser représente la France, lui dans sa librairie Lamandier à Puteau, à côté de la Défense, du côté de Paris. Bonjour Thomas.
Bonjour Emmanuel.
Tout va bien pour vous?
Ouais, super.
Première émission d'année pour vous, bonne année tiens.
Eh ben oui, bah bonne année, bon. Bah ouais, bonne année.
Et enfin pour la Belgique, on retrouve Déborah Damblon de la librairie de la Licorne à Bruxelles. Bonjour Déborah.
Bonjour Emmanuel.
Merci d'être avec nous tous les quatre, vous interviendrez bien sûr tout au long de cette émission.
J'attendrai que ma joie revienne et que soit mort le souvenir de cet amour de tant de peine pour lequel j'ai voulu mourir. J'attendrai que ma joie revienne, qu'au matin je puisse sourire, que le vent ait séché ma peine et la nuit calmé mon délire. Il est, paraît-il, un rivage où l'on guérit du mal d'aimer. Les amours morts lui font naufrage, épave noire du passé. Si tu veux que ma joie revienne, qu'au matin je puisse sourire vers ce pays où meurt la peine, je t'en prie, laisse-moi partir. Il faut de mes amours anciennes que périssent.
Sur cette musique de Barbara, la BO du roman de Gaël Josse, qui est avec nous en plateau. Bonjour Gaël Josse.
Bonjour Emmanuel.
Vous avez choisi ce titre et vous le citez d'ailleurs dans le livre.
Oui.
Ça dit tout finalement, hein. Ça raconte un peu votre histoire.
Ça a même failli être le titre du livre.
Ah oui.
Voilà, il y avait eu une longue hésitation et on a choisi autre chose. Voilà.
Bon voilà, cette chanson magnifique de Barbara. Alors vous publiez ce matin-là aux éditions Notabilia. La presse s'en parle déjà beaucoup en France. C'est un roman sur la perte de ses repères, sur la saturation personnelle et professionnelle. C'est un bon livre pour commencer l'année, ça, Gaël?
J'espère. C'est un livre que j'ai... C'est ça, que j'ai voulu en faire un livre autour de notre désir. C'est un livre que j'ai, voilà, que j'ai souhaité sur le désir, sur notre profond désir de vie.
Ouais. Alors, Clara a passé la trentaine. Elle travaille dans le monde de la finance, c'est la routine, quelques problèmes de famille, un amour vacillant, bref, elle est un peu comme tout le monde. Mais ce matin-là, c'est le titre du roman, sa voiture ne démarre pas et elle craque.
Oui, il y a un non-démarrage qui devient un non-démarrage métaphorique finalement, ouais. Puisqu'elle ne démarre pas elle non plus, elle va s'écrouler. Et j'ai pensé à toutes ces personnes que j'ai vues depuis 2 ans, j'ai vu beaucoup de monde tomber, voilà, autour de moi. Oui, beaucoup de
moralement,
comme ça, d'effondrement à la fois moraux et physiques. C'est-à-dire que j'ai été surprise de voir à quel point notre volonté, notre cerveau se met en marche et tente de résister. Mais à un moment, c'est le corps qui, lui, s'arrête.
Qui lâche, voilà. Ça commence comme ça, d'ailleurs. Son repli sur elle a commencé et ça va durer 2 ans. Il va falloir qu'elle reconstruise sa vie. Le plus dur, finalement, c'est d'accepter une certaine mort de ce qu'elle a été.
Oui, tout à fait. Il y a un phénomène d'effondrement avec une espèce d'implosion, je dirais, de la totalité de son écosystème, c'est-à-dire social, professionnel, amoureux, affectif, amical, et puis aussi la mort peut-être du propre regard qu'elle porte sur elle.
Mais c'est ça le fond de l'histoire, hein, essayer de renaître. Mais pour ça, parfois, il faut faire table rase. Il faut accepter la fin de quelque chose parce que sinon on va périr. Il y a danger de mort, là ?
Oui, sincèrement, je le crois. Je crois qu'il y a à un moment, quand on se laisse étrangler physiquement et moralement, il y a ce danger d'asphyxie complète de la personne et la nécessité de se réinterroger sur son vrai désir. En fait, qu'est-ce qu'on voulait faire quand on était petit ? Voilà. Est-ce que...
c'est ça.
Qu'est-ce qu'on voulait faire ?
Mais il y a les souvenirs de l'enfance qui remontent.
Oui, et est-ce que l'adulte qu'on est aujourd'hui, finalement, il se reconnaît un petit peu dans l'enfant qu'il était ?
Bah, généralement, non.
Ben oui, on a souvent, on l'a pas forcément trahi, mais on a pu l'oublier. Et puis les circonstances ont fait que, et à un moment, les circonstances font que c'est plus possible.
Vous l'avez trahi, la petite Gaëlle, vous ?
Je crois que je l'ai trahi pendant longtemps, ou que je l'ai oublié, voilà, que j'étais aussi un peu comme Clara. Et je crois qu'avec l'écriture, très sincèrement, j'ai l'impression de me retrouver.
Alors, quand on a ces souvenirs d'enfance comme ça qui remontent, quand on a le sentiment d'avoir manqué l'amour, l'impression d'avoir raté sa vie personnelle, c'est son cas, comment on fait pour en sortir, Gaëlle Josse ?
Et justement, qu'est-ce qu'on fait ? Avant tout, je crois qu'il n'y a pas de conseils et qu'il n'y a pas de recettes. Là, je crois qu'il y a une grande erreur à croire qu'il suffit de quelques recettes et de la volonté.
Les psychologues ne servent à rien ?
Oh, je dirais pas ça, mais les recettes un petit peu hâtives de psychologie, je pense, peuvent quelquefois donner des pistes, mais...
ça ne suffit pas.
Ça ne suffit pas. Non, je crois que la volonté ne suffit pas. Je crois qu'à un moment, il y a ce lâcher-prise total qui fait que voilà, Clara, cette jeune femme, va se trouver un petit peu comme une étoile de mer flottante, un peu sans savoir où elle va.
Bah, elle a laissé passer le temps, en fait.
Elle
se retrouve comme ça, face à sa condition, face à sa vie. Elle a aussi fait l'erreur de tout donner à son travail et elle n'a pas tout donné à son entourage, à son compagnon notamment, et elle les a perdus, en majorité. Thomas, par exemple.
Oui, parce que, vous savez, quelquefois, dans son travail, on essaie d'être la bonne élève, d'être efficace, de ne pas se plaindre. Et on répond quelquefois aussi au regard que dans l'enfance, on a pu avoir sur nous, où il fallait aussi avoir des bonnes notes, être la bonne élève, ne pas se plaindre. Et tout ça, pour finalement une seule raison, pour qu'on nous aime, pour qu'on nous dise qu'on est quelqu'un de bien, pour nous rassurer, pour nous aimer. Et on continue quelquefois très longtemps à courir après ça. Et puis à un moment, ça ne fonctionne plus.
Ça ne suffit pas non plus.
Parce que c'est trop dur.
Mais quand on devient comme elle, fragile, vous l'écrivez en majuscule, fragile, alors qu'on a donné comme ça toute sa vie une autre image de soi, les autres, vous expliquez ça, enfin en tout cas votre récit le montre, les autres ne veulent pas de vous, ils ne veulent plus de vous.
Et c'est compliqué de devenir un autre et de continuer à être accepté, parce que notre entourage a accepté quelqu'un de connu, et du jour au lendemain, on va faire face à une inconnue. Clara, pour son amoureux, elle devient une inconnue. Elle n'est plus la jeune femme battante, sexy, gaie, dynamique, qui prend soin de son travail, de son corps, qui aime faire l'amour, etc. Elle devient une chose effondrée en jogging au fond de son canapé.
Mais la fragilité fait peur, vous pensez ?
Et je crois que la fragilité, bien sûr, fait peur parce que je crois qu'au fond de nous, on a peur que ça soit contagieux.
Oui. Bon, on va voir du côté de nos libraires. Bonne année, hein, Gaëlle Josse.
Mais
sinon,
mais oui.
C'est pas très gai, mais en tout cas, il y a plein de choses positives dans ce livre. On va voir du côté des libraires, d'ailleurs. La Belgique et la Suisse, deux libraires qui ont lu votre roman. On commence par qui, Gaëlle?
Ah, au choix, pouf pouf.
Bah, allez-y, faites plouf plouf.
Eh ben, la Suisse.
Allons-y, la Suisse. Allez, Dominique Bressoux.
Oui, alors Gaëlle Josse, moi, votre roman m'a fait irrésistiblement penser à une métaphore bien connue qui compare la vie à un vase rempli de cailloux de tailles différentes. Et si vous ne mettez pas les plus gros en premier, ceux qui représentent les buts importants de la vie, ils ne pourront plus entrer dans le vase. Et votre livre décrit la peine et la nécessité qu'il y a à se débarrasser des petits cailloux pour faire de la place à ce qui compte vraiment pour vous.
Belle image.
C'est une belle métaphore.
Ouais, belle métaphore.
Oui, merci.
Déborah Damblon, en Belgique, êtes-vous d'accord?
Oui, oui, tout à fait. Parce que moi, quand j'ai plongé dans votre livre, Madame Josse, je dois avouer que je vous en ai un peu voulu de m'inspirer dans un sujet pareil. Parce que regardez couler Clara sans rien dire, mais qu'est-ce que c'était dur. Et puis après, ben, c'était trop tard pour lui lâcher la main, parce que je m'étais attachée à elle comme à une vraie amie, et je me suis noyée avec elle. C'était tout à fait oppressant. Mais au fond, c'est tant mieux. C'est tant mieux parce que ça m'a permis de regarder la peine en face. Et regarder la peine en face, c'est quelque chose qu'on s'autorise trop peu, je pense. Et du coup, de pouvoir la relativiser. Et après, je trouve que votre livre, eh bien, il compte à merveille comment la lumière est à débusquer dans les toutes petites choses, et puis que contrairement à ce qu'on nous dit trop souvent, comme a dit Dominique, le bonheur, eh bien, c'est tout petit, et ça doit être cultivé avec soin.
Ce matin-là, de Gaëlle Josse, paru chez Notabilia. Voilà, vous avez séduit les libraires, Gaëlle.
Merci.
Le plus dur, c'est à un moment de se retrouver seule sur la route. Elle vit cela, Clara. Après un séjour chez sa meilleure amie, elle se retrouve seule sur la route du retour. Et là, l'angoisse est insoutenable. C'est la peur de retrouver des habitudes, elle l'explique, mais c'est aussi, surtout, comme une peur de vivre.
L'inconnu, par définition, est quelque chose d'effrayant. On n'a plus de repères. Qu'est-ce qui va nous arriver? Et est-ce que ce qui va nous arriver va être heureux? Et là, pour moi, c'est l'histoire de quelqu'un qui essaie avant tout de se réajuster, de se réaccorder à sa vie, comme un instrument de musique qui se mettrait à jouer faux et qui ne peut plus jouer. Il faut retrouver cette note juste et trouver finalement la chose la plus importante, peut-être, c'est notre juste place dans la vie.
Mais c'est ça, la place dans le puzzle, comme vous dites. Un puzzle dans lequel elle ne sait plus où est sa place.
Oui.
C'est ça.
Oui.
Elle est confrontée à ça.
Et ça, je pense que c'est une vraie tragédie de se trouver à un endroit qui n'est pas notre place et à se demander comment est-ce que je peux la retrouver.
Et puis il y a les autres, Gaëlle Josse. On n'a pas envie de les quitter, ceux qu'on aime, ceux qui nous ont accompagnés, qui ont fait un bout de chemin avec nous, même si les liens se sont distendus, c'est son cas aussi. La mère de Clara lui dira, tu sais ma chérie, on s'apprivoise avec le temps, sinon ce n'est pas vivable. Il faut toujours faire en sorte d'accepter de tolérer les autres.
Je crois qu'il y a une
tels qu'ils sont, en tout cas.
Une acceptation difficile. Vous savez, je pense toujours à ce mot de Marc Aurèle, dire donnez-moi la force de supporter ce qui ne peut pas être changé et la force de changer ce qui doit l'être, et surtout la sagesse de distinguer l'un de l'autre. Pour moi, ça a été une des phrases les plus éclairantes.
Voilà, il y en a une aussi de Jim Harrison. Vous montrez que l'objectif dans la vie d'une femme ou d'un homme, c'est d'aller vers l'avant encore et toujours.
Oui.
On n'a pas le choix.
Oui, le sens des rivières, c'est ça. On n'a pas le choix. Donc on ne peut pas aller contre le sens de la rivière, mais il faut arriver à trouver, je dirais, le bon courant. Voilà, le courant chaud, le bon courant qui va nous emmener vers quelque chose de juste par rapport à nous.
On dit que la vie est comme la danse des rivières, parce que rien dans l'univers ne va à contresens. On ne peut jamais aller contre la pente, on est piégé, forcé d'aller de l'avant.
Ouais.
Vous avez vécu ça toute votre vie aussi, Gaëlle.
En essayant d'aller de l'avant, mais d'y aller le mieux possible.
Ouais.
C'est ce mot que j'aime bien, en étant juste par rapport à nous et par rapport aux autres.
Ouais. Comment vous l'avez écrit ce livre-là, Gaëlle? Vous l'avez vécu ou c'est justement les personnes qui se sont effondrées autour de vous qui... sans donner des éléments.
La chute ou l'effondrement des autres renvoie forcément à des situations personnelles qu'on a pu aussi vivre, que ce soit à titre professionnel ou personnel. Et bien sûr, je suis allée puiser là-dedans pour chercher ces émotions, ces sensations, ces sentiments. Mais j'ai eu envie d'écrire un livre qui peut-être, à l'inverse de mes précédents, où il y avait des choses peut-être beaucoup plus tragiques et peut-être aussi où il se passait, entre guillemets, davantage de choses sur un plan narratif. J'ai vraiment eu envie d'écrire quelque chose au plus près de nos vies.
C'est un livre consolateur aussi.
Voilà, et j'ai eu envie d'écrire quelque chose qui pourrait peut-être, je l'espère, consoler, réparer quelque chose, sans pour autant donner ni de conseils, ni de recettes.
Merci beaucoup Gaëlle Josse. Ce matin-là est paru chez Notabilia, un livre qui va forcément vous émouvoir ou en tout cas vous faire réagir. Merci Gaëlle.
Merci à vous.
À très bientôt. À suivre le roman Fou d'Amélie Nothomb qui sort en poche et le nouveau roman du Suisse Max Loeb. Ce sera après la chanteuse burkinabé Candy Guira dans la librairie francophone. Mamzina nasa tenga haliti kose mam tola mbaira tumna tapaga mam wene kapa machuga ye vakanse mam kuila mbaira na tifura yammi vusuman beni yammi vusuman beni yammi vusuman beni Titre qui fait du bien en ces débuts d'année, la chanteuse du Burkina Faso, Candy Guira, avec Talent Gaugé dans la librairie francophone.
La librairie francophone, Emmanuel Kérad.
Et comme chaque année, en ce début janvier, on vous propose des livres de poche pour tous les budgets, des livres qui font du bien aussi pour entamer la nouvelle année 2021. Tout à l'heure, Régis Geoffrey vous parlera de la paternité, et tout de suite, voici la très populaire belge Amélie Nothomb, qui avait publié il y a un an son roman le plus osé et sans doute le plus beau. Elle avait même frôlé le prix Goncourt. Nous avions réalisé avec elle un entretien impertinent en public, en Suisse, à la belle époque, au Festival Le Livre sur les quais à Morges. Son roman vient tout juste de sortir au livre de poche.
Ce livre, je le porte depuis très longtemps. C'est pas banal de dire qu'on porte un livre en soi depuis 50 ans, mais c'est la vérité. Ça fait 50 ans que je porte ce livre en moi et que je sais que je le porte en moi. Pourquoi est-ce que j'ai attendu si longtemps pour l'écrire ? Mais parce que je voulais être prête à l'écrire. Écrire la crucifixion du Christ à la première personne du singulier, bon, il faut se sentir prête. Je ne me suis jamais sentie prête pour ça. Avril 2018, je me pose une 2000e fois la question, est-ce que tu te sens prête ? Ben non, bien sûr que non, on n'est jamais prête à être crucifié, c'est comme ça. Et tout à coup, je me suis dit, mais tu sais, ma vieille, t'as plus de 50 ans, si tu le fais pas maintenant, après il sera trop tard, t'auras plus la santé pour le faire, tu auras plus les ressources pour le faire. Donc, tu acceptes la crucifixion tout de suite, ou alors c'est jamais.
Donc c'est une forme de crucifixion d'écrire ce livre.
C'est-à-dire que... il fallait.
Prenons la métaphore, Amélie.
Ce n'est pas une métaphore. La moitié du livre se passe sur la croix. Et vraiment, pendant toute cette moitié-là, quand je me levais le matin, je me levais en me disant, ça y est, maintenant tu retournes sur la croix. Alors, rassurez-vous, je ne suis pas dingue au point de croire que je suis Jésus. Mais ce qui est vrai, c'est que je me suis mise dans cette situation pendant tout le temps de l'écriture qui m'a paru... Enfin, tous les matins, je disais, c'est au-dessus de mes forces. Je ne vais pas pouvoir y retourner. Puis je ne me laissais pas le choix.
Et vous l'avez écrit quand, ce livre ? Parce que je sais que vous en avez d'avance. Celui-là, vous l'avez écrit quand ?
Printemps-été 2018. Oui.
D'accord. Alors, dans votre livre, Jésus a des regrets, des envies et des doutes, comme tout être humain. Il s'est totalement incarné. C'est d'ailleurs, selon lui, la plus grande réussite de son père. Et il dit, je suis comme tout le monde, j'ai peur de mourir. Et vous êtes mis à sa place, vous avez peur comme lui de mourir sur la croix.
C'est-à-dire que la mort en soi ne me fait pas peur, mais mourir crucifié, mais quelle horreur mourir dans la souffrance, c'est la souffrance qui me fait peur.
Oui.
Ce qui est terrible dans la crucifixion, c'est pas la mort, c'est le supplice. On sait que c'est une mise à mort très lente, extrêmement douloureuse. On meurt par asphyxie, et d'une asphyxie abominablement douloureuse. C'est probablement la pire mise à mort qui existe, et on nous présente ça comme un acte d'amour. C'est ça qui est insoutenable. J'ai eu une éducation catholique habituelle, je suis allée au catéchisme, et je n'en pouvais plus d'entendre que Jésus avait fait ça par amour. Je ne voyais aucun amour dans le fait de se faire crucifier.
Bon, la soif, parlons de la soif, puisque c'est le titre de ce roman Amélie Nothomb. La soif, là aussi une réflexion très intéressante. Jésus raconte que l'extrême soif est une transe mystique.
Oui, alors, la soif, c'est mon grand sujet, hein, c'est ma spécialité, il faut parler de ce qu'on connaît, et ce que je connais le mieux, c'est sans doute la soif. J'ai toujours eu soif d'à peu près tout, et pour moi, la soif n'est pas une métaphore de l'élan mystique, c'est l'élan mystique. Je conseille à tout le monde de cultiver sa soif. Si vous avez soif, ne vous précipitez pas sur un verre d'eau, attendez vraiment le moment où vous sentez que vous allez crever de soif, et buvez à ce moment-là, et je vous assure, c'est c'est la transe mystique la plus accessible, et voilà, c'est directement vertical, c'est vertigineux.
Vous ne direz jamais ça en période de canicule, s'il vous plaît, parce que sinon on va avoir des problèmes. Non mais c'est vrai, c'est vertigineux, vous dites ça, que ça peut transcender quelqu'un, de garder sa soif en lui, et de goûter juste un tout petit peu d'eau alors qu'on meurt de soif.
Or, là, je suis canonique, parce que même dans les évangiles, l'antépénultième parole qu'on prête à Jésus sur la croix, c'est « j'ai soif ». Et ça m'a toujours frappée. On ne s'attend pas à ça. On lui prête des phrases qui, d'ailleurs, me mettent très, très mal à l'aise. « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font ». Enfin, des phrases qu'on attend dans la bouche d'un grand personnage. Mais ce petit « j'ai soif » me paraît mille fois plus fort, mille fois plus bouleversant. Ça, c'est vraiment une parole incarnée. C'est le mysticisme même.
Et la soif mène à l'amour. Car, comme vous le dites, aimer, cela commence toujours par boire avec quelqu'un. Et Jésus confie son amour pour l'apôtre Jean, qui l'écoute par amour, justement. Il l'accompagne, il le soutient, c'est son bras droit. C'est son préféré, Jean.
Ça, c'est aussi dans la version canonique. Alors, j'imagine que Jésus aime particulièrement Jean parce que Jean écoute plus fort. Bon, quand on lit l'évangile selon Saint Jean, on peut se poser des questions. Je pense que Jean était un écrivain. Je comprends d'avoir choisi le Christ comme sujet parce qu'il n'y a pas de plus grand sujet.
Ouais.
Mais je le soupçonne en véritable écrivain d'avoir quand même pas mal déformé le propos. Et puis, il y a quand même
un peu comme vous, quoi. Là.
Ah non, moi, au contraire, je pense que je reviens exactement...
C'est un roman apocryphe, comme on dit, votre livre.
Mais remarquez qu'il y a quand même un truc très dérangeant avec les évangélistes. Ils écrivent tous la crucifixion alors qu'aucun n'y assiste. C'est très
génial. C'est vrai. Bon, en tout cas, vous créez votre Jésus à vous, hein, Amélie Nothomb. Il y a une chanson qui pourrait être la bande originale de votre livre.
Mais c'est ma grande chanson d'adolescence, c'est Personal Jesus, bien sûr.
De Dépêche Mode, écoutons.
Just touch me, you're on personal Jesus.
Dépêche Mode avec Personal Jesus. Cette chanson qui finalement est un peu blasphématoire aussi. Et dans ce livre, Amélie Nothomb, cette vie que vous imaginez de Jésus, vous imaginez le contre-pied. Vous imaginez aussi une autre vie qu'il aurait pu mener avec Madeleine. Vous allez vous attirer les foudres des catholiques intégristes.
Alors, vous savez que Kazan Jackie l'avait fait avec La Dernière Tentation, qui est devenu le film de Scorsese, La Dernière Tentation du Christ.
Oui. Mais là, fait scandale.
Ce qui avait déjà fait scandale, ce que Kazan Jackie et Scorsese imaginent, c'est que le Christ, en situation de crucifixion, tombe dans une espèce de vape et a un rêve. Il rêve qu'il a choisi une autre vie et qu'il épouse Marie-Madeleine, qu'il a des enfants et qu'il devient un homme parfaitement normal. Ma version est différente. Moi, ce n'est pas un rêve. Mon Jésus est extrêmement lucide. Il se rend compte simplement qu'il a fait une faute monumentale et que la faute, c'est la crucifixion.
Et il imagine surtout que tout le monde va le laisser tranquille parce qu'il va y avoir un déluge et qu'on pourrait peut-être le laisser descendre de la croix. C'est ça que vous racontez.
Il
pourrait prendre le cours d'une vie normale.
Il le rêve, mais il a quand même la lucidité de s'apercevoir que ça ne va pas se passer.
Et il dira à son père, Dieu, que le sens de la vie, c'est de ne pas souffrir. Vous écrivez, sous couleur de donner une leçon d'amour édifiante, tu mets en scène la punition la plus hideuse et la plus lourde de conséquences qui se puisse imaginer. Et Jésus dira même dans votre roman, il y a un vice de forme dans la création.
Mais écoutez, ce père qui envoie un fils pour sauver l'humanité en le crucifiant, mais au secours, il est quand même grand temps de dire que le martyr, ça ne sauve rien. C'est tout le contraire, ça condamne tout le monde.
Je suis responsable du plus grand contresens de l'histoire. Vous y allez, hein ?
Mais c'est vrai. Au moins, mon Jésus est lucide. Et en plus, il finalement... C'est aussi pour ça qu'il y a certaines paroles que je ne peux pas mettre dans sa bouche. Comme quand l'avant-dernière parole qu'on lui prête, c'est « Mon père, pourquoi m'as-tu abandonné ?»
Oui.
Comme s'il allait s'en rendre compte à ce moment-là. Mais c'est carrément... c'est une lapalissade. Si c'est à ce moment-là qu'il se rend compte que Jésus, que son père l'a abandonné, c'est qu'il n'est pas très observateur, quand même.
On attend vos courriers et courriels à la librairie francophone. Emmanuel Kérad, allez-y, hein, je prendrai. Je vous transmettrai, Amélie. Merci beaucoup, Amélie Nothomb, pour cette fidélité à la librairie francophone.
Les médias francophones publics.
Radio France.
RTBF.
Radio-Canada.
Radio-Télévision Suisse.
La librairie francophone. Emmanuel Kérad.
Et bonjour, Max Loeb.
Bonjour.
Après cet entretien en Suisse d'Amélie Nothomb, hein, comme vous voulez, on reste en pays helvète ou presque avec vous. Vous êtes un écrivain suisse né au Cameroun, auteur de 4 romans, tous couronnés par un prix. Vous publiez La promesse de sa fâle excellence, un récit de 140 pages très étrange. On suit un raconteur d'histoire dans un bidonville, quelque part en Afrique. Son métier, c'est ça, raconteur d'histoire ?
Exactement. Je pense que c'est un métier et pour la période que nous traversons, nous nous rendrons compte de combien la culture, la littérature, voilà, en gros, la culture souffre de cette période. Et pour moi aussi, hein, il faut dire, cette année, en janvier 2021, ça fait 10 ans que j'écris, que je publie. Et je me suis rendu compte de combien l'écriture était une responsabilité énorme et aussi une vulnérabilité. Donc, voilà. Pour moi, raconter des histoires, un raconteur d'histoires, c'est une profession très importante.
Alors, c'est ce qu'il fait, hein, dans votre livre. Il y a des traditions à respecter aussi. Boire de la bière, il en boit beaucoup, hein, puisque les bouteilles font 1,5 litre chez vous. Et il en boit quelques-unes, vous imaginez. Remercier les ancêtres et attendre la phalamparition, le fameux jour Yahani. Qu'est-ce que c'est la phalamparition, Max ?
Déjà par les auditeurs, je veux dire, bon, alors la phalamparition, c'est l'apparition de quelqu'un, c'est une apparition, on peut découper le terme comme on veut, mais je voudrais préciser tout de suite que c'est tout ce livre se base sur la langue, c'est un questionnement de la langue, c'est-à-dire les mots, à quoi nous servent les mots.
Oui, vous inventez un langage.
Exactement. Parce qu'on dit souvent les mots sont importants, mais j'ai envie de dire qu'avant les mots, avant l'écrit d'ailleurs, qui n'est qu'une sorte, comment je vais dire, d'extrémité de l'idée, donc avant les mots, il y a des images. Et les images, voilà, c'est quelque chose de très interne. Et je terminerai juste avec ça. Je pense que la langue ne doit pas... nous empêcher de dire les choses.
Oui, mais alors Max
doit être à notre service.
Max, au début, on se dit tiens, c'est rigolo, on va s'amuser avec ce livre. Et au bout de 30 pages, la lecture devient une épreuve. Tant il faut décrypter et essayer de comprendre. Je vais vous dire la vérité, Max. Moi, j'ai mis 3 heures à le lire, votre livre de 140 pages. Pourtant, il est court. Et je n'ai compris que des bribes d'histoire.
Peut-être qu'il faudra encore faire 3 heures. Oui. Parce que je sais, comme je disais tout à l'heure, la langue doit être à notre service. Ouais. Or, la langue que nous pratiquons là maintenant, que nous utilisons, il me semble qu'elle m'empêche de dire l'idée même. Parce qu'il faudrait que les gens comprennent le cheminement, pas simplement entre le livre et le lecteur, mais entre l'écrivain et l'écrivain lui-même. Ça veut dire qu'on voit d'abord quelque chose, on se fait une image de la langue, et après, il se trouve que j'ai pas de mots pour dire cette image qui me vient à la tête.
Alors,
je vais pas faire un cours de linguistique.
Non, mais je vais lire un extrait, comme ça on va se mettre dedans, Max. Hein, tout le monde va comprendre. À un moment, page 95, vous écrivez « Est-ce que vous croyez que je suis amoureuse? Regardez vous-même de quoi je me sale. Regardez comme ça bave dans un landau la lolette en bouche anusée. Et quand c'est pas lolette, c'est mama melon. Et maintenant, je porte un échafaudage. Sinon, ça se déroule jusqu'au sol. Même les Witanazas, avec toute leur science scientifique, n'ont pas pu me les relever autrement que par ce truc que je me traîne partout. »
Ouais. Alors là, c'est la royale qui parle, c'est la clitaltes qui
mais s'adresse qu'elle dit
à l'écrivain. Elle lui dit, je me sale, regardez de quelle sauce je me sale. Et elle parle de sa phale excellence, parce que la question que tout le monde peut se poser, c'est qui est sa phale excellence?
Oui,
qui
jusqu'au
est
bout.
Sa clitaltes
hein.
Ce que je voudrais dire au lecteur, c'est de prendre ce livre simplement. En prendre soit à la première lecture ce qu'on croit comprendre, ce qu'on a compris, ou à la millième lecture, il y a tellement de niveaux de lecture, c'est exactement ce que je voulais proposer.
D'accord.
Parce que vous savez, vraiment, ça fait 10 ans que je parle de ces rapports nord-sud, de la tyrannie qui se passe, qui continue de se dérouler sous nos yeux.
Donc, avec des livres géniaux, hein. Avec des livres géniaux, avant celui-là. Vraiment géniaux.
Oui. Ouais, mais celui-là, pense que c'est une réflexion, poussé sur la langue.
Bon, on va voir avec les libraires ce qu'ils en ont pensé. On va tout de suite leur donner la parole. Qu'est-ce qu'ils ont pensé de votre nouveau roman, complètement improbable, très discutable, disons les choses, La France et le Canada. Et on commence avec Thomas Hausser. À plus tôt.
Alors oui, moi ce livre m'a bousculé et je dois dire qu'il est complètement déglingo. C'est une pépite d'écriture et de trouvailles. Alors votre texte est à conseiller à tous ceux qui pensent que la langue française est un peu figée. Alors ça, clairement, ils vont être surpris. C'est vrai aussi qu'il faut se laisser aller dans cette nouvelle langue très travaillée mais pas gratuite. Même si d'un autre côté, par moments, j'ai été un petit peu submergé. Bon, ça, c'est pas grave. C'est luxuriant, c'est déroutant. J'ai été autant perdu que j'ai apprécié.
Bien, le Canada avec Katia Courteau. Êtes-vous d'accord, Katia?
Oui, absolument. J'ai été soufflée complètement. Max Loeb, vous m'avez permis une expérience de lecture que j'attendais même depuis Beckett. Votre langage halluciné, truculent, désopilant, d'une force évocatrice, a mis mon cerveau en ébullition totalement. J'ai plongé dans votre livre comme on entre dans un recueil de poésie. Je pense que c'est là peut-être que ça se situe aussi. Je crois qu'il faut se laisser aller. Ça demande un abandon. C'est vrai, mais quel voyage!
Voilà, Beckett, carrément. Vous avez séduit les libraires et franchement, moi ça m'a étonné parce que je pensais qu'ils allaient être confrontés à une lecture difficile, mais ça passe, Max Loeb.
Merci, qu'est-ce que je peux dire? Je veux dire, je voulais juste renouveler l'expérience de la lecture et de l'écriture pour moi-même. Parce que ce qu'on donne, on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Moi, quand j'ouvre un livre, je voudrais que la graphie se transforme en image et que ça m'amène à rejoindre l'idée même de l'écrivain. Mmh. Or, si on parle simplement comme ça, on ne peut pas capter ce que veut dire la tyrannie, par exemple. La tyrannie, c'est empêcher les gens de penser. On ne peut plus penser. Il ne doit pas avoir de doute. Et comment vous voulez que j'écrive ça avec un français tout à fait normal?
Mais Max, vous l'avez fait avec les précédents romans? Avec un français tout à fait normal, comme vous dites, et les messages passés.
Dans les précédents romans, on m'a toujours parlé de la langue,
oui.
mon français.
Mais d'accord.
Là, j'ai vraiment voulu.
Mais là, vous allez très loin.
Alors, La libraire canadienne a parlé de Beckett,
ouais ça vous va.
Inspiré, mais aussi Rabelais, vraiment tout Rabelais. Il faut qu'on retourne à la source du roman, les romans d'Amérique latine sur les dictatures de García Márquez, de Llosa, de Asturias.
Non, mais d'accord.
Donc, toute cette littérature là, c'est vraiment le livre.
Mais ils sont pas écrits comme ça,
question.
Max. Là, vous avez fait un exercice de style. Vous parlez de Rabelais, effectivement. On est dans une lecture et dans une écriture rabelaisienne parce qu'il y a ce côté phallique, il y a ce côté sexuel permanent. Vous avez comme ça ce rapport à la chair que l'on décèle, hein, même si les mots sont parfois inventés et compliqués. Hein, on comprend certaines choses. Et il y a cette matière, par exemple, le n'cap. Alors, pouvez-vous nous dire, avec des mots choisis, à une heure de grande écoute, Max, ce qu'est le n'cap?
Le n'cap, normalement, au Cameroun, tout Camerounais qui m'écoute va savoir... Le cap, c'est de l'argent, simplement. Mmh. Et donc, et vous avez dit tout à l'heure, le whitenizer, non, c'est le whitenizer.
Pardon.
C'est notre façon de parler des Occidentaux. Mmh. Donc, le cap, c'est de l'argent, mais je transforme ça à une sorte de roche pour parler simplement des minéraux africains qui sont puisés. Mmh. Mais ça n'est même pas la question. C'est vraiment prendre la langue et se dire comment parler et de la dictature et de l'écriture inclusive et de l'homosexualité et de, du fait d'être noir, comment parler de toutes ces questions
et de la jouissance.
Qui sont vraiment très importantes pour moi.
Et de la jouissance, le n'cap, c'est ça, Max. Le n'cap, c'est un aggloméré de semences.
C'est un aggloméré de semences, de sperme.
Depuis très longtemps.
Vous voyez,
ça s'est accumulé.
Mais il faut une genèse. Il faut une genèse et je veux dire vraiment le retour que j'ai eu des lecteurs jusqu'ici, c'est vrai, c'est partagé, mais je pense qu'il faut, on peut pas simplement lire comme on lit aujourd'hui un livre de 500 pages en 3 heures de temps. Parfois il faut entrer dans le livre, comprendre de quoi je veux parler.
Oui. Voilà, il fait 140 pages. Hein. Bon, vous dites des choses très justes cependant, Max Loeb. Il y a une belle démonstration de la patience nécessaire. Vous écrivez, il faut beaucoup de patience pour se fabriquer une vie.
Je parle beaucoup de moi. Vous savez, ça fait 17 ans que je vis en Suisse. Il faut beaucoup de patience pour se fabriquer une vie, oui. Il faut beaucoup, des gens parlent d'avaler des couleuvres, mais chez moi, on ne voit pas ce que c'est qu'avaler des couleuvres. Il faut avoir une peau dure de crocodile pour attendre sa propre apparition à soi-même, c'est-à-dire le moment de la jouissance où on a accès à la lumière. Mmh. Et pour cela, ça demande une réflexion qui se porte plutôt sur la langue.
Bien. On a compris le message. Merci beaucoup, Max Loeb. La promesse de sa folle excellence est parue chez l'éditeur suisse Zoé. À vous qui nous écoutez, donc, de vous faire une opinion. Un livre pour lecteurs avertis. C'est très particulier, vous l'avez entendu. Mais c'est complètement assumé par l'auteur et ça ne m'étonne pas du tout de vous, Max. À bientôt.
À bientôt. J'attends le courrier des lecteurs aussi.
Allons-y. Allez, avec Amélie, avec vous, allez-y. On vous transmettra.
Merci beaucoup.
Merci à vous, Max. Dans un instant, les confidences de Régis Geoffrey sur son père et sur la paternité, les coups de gueule et coups de cœur de nos libraires. Et notre séquence consacrée aux bibliothèques, nous irons en Belgique à Charleroi. Avant cela, voici le titre musical événement de ce début d'année. C'est le retour d'Eddie de Préto dans la librairie francophone.
Quand j'étais gars trop moche, chantant sur bateau mouche, avec un dans les poches, faisais moins la fine bouche. Je prenais toutes les avances, de sourire pas très cash. Fallait bien que je mange pour apaiser ma soif. En triplet dessert, je reculais l'attente. Des gros ventres à remplir avec chansons badantes. Sur mon estrade en toc que je prenais pour scène. Je me sentais comme un coq, mais je flottais que sur la scène. Maquillé au pinceau, un solo pour mariage, avec costume Célio et l'odeur du fromage. Je posais comme il faut, les gens menaient pas large. Je me sentais parfois trop entre rêve et noyade. J'étais lui qu'on ne voit pas, qui se glisse entre les tables. J'entends du Rihanna avec un accent grave qui sourit à chaque fois pour faire plaisir mesdames. Faudrait pas que messieurs se sentent dragués par moi. Quand j'étais personne, plein de petits taffes d'automne, je rêvais d'idoles, je me voyais déjà en haut. Quand j'avais personne, une soif qui déborde, je rêvais des tonnes, je me voyais déjà en haut. Et c'était beau, début, beau, début, beau, début, beau, début. Je découvrais Paris,
comme découvre l'étranger,
viens d'où il fait gris,
où on laisse tout trop l'air,
les monuments crariés,
emportés comme jamais,
avec une envie,
m'installer sur ce pavé,
à chanter toute ma vie,
pas les chansons des autres,
j'en avais dans le vent,
pas du saumon le nôtre,
j'attendais patiemment,
monter sur le trône,
qu'on reprenne mes chansons,
comme je reprends vie en rose.
Quand j'étais personne, plein de petits taffes d'automne, je rêvais d'idoles, je me voyais déjà en haut.
quand j'avais personne, qu'une soif qui déborde. Je rêvais des tonnes, je me voyais déjà en haut et c'était beau. Début, beau. Je devais quitter mes Nike et les laisser sous le bateau. C'était pas assez classe pour l'image de ce show. Je n'avais qu'une hâte, pour montrer ce que je vaux, montrer combien je fake, les gentlemen à l'eau. Le soir je m'improvisais, la vedette du bateau, en maquillant mes souhaits, au parfum du ghetto. Tous les soirs je trinquais, rêve fou de mon ego. En attendant je réglais mes grands rêves au chapeau. Quand j'étais personne, plein de petits taffes d'automne, je rêvais d'idoles. Je me voyais déjà en haut. Quand j'avais personne, qu'une soif qui déborde. Je rêvais des tonnes, je me voyais déjà en haut. Et c'était beau. Début, beau. Quand j'étais gars trop moche, chantant sur bateau mouche, avec un dans les poches, faisais moins la fine bouche. Je prenais toutes les avances, le sourire pas très cash. Fallait bien que je mange pour apaiser ma soif.
Le tout nouveau titre d'Eddie de Préto qui poursuit sa carrière musicale avec ses confidences toujours émouvantes et avec cette chanson Bateau Mouche.
La librairie francophone, une émission coproduite par les médias francophones publics.
RTS la première.
Ici Radio-Canada première.
RTBF la première.
France Inter.
La chronique des coups de gueule et des coups de cœur avec la Suisse et un coup de gueule, Dominique Bressou.
Oui, un coup de gueule sur l'opportunisme de mauvais aloi d'écrivains et d'éditeurs.
Oula.
Moi, j'ai dans l'idée que quand on va dans sa librairie préférée, on pose ses ennuis à l'entrée et on vient chercher du rêve ou des émotions qui vous extraient du quotidien. Alors, par pitié, serait-il possible d'attendre la fin de la pandémie, ce qui ne saurait tarder, bien sûr, pour publier des romans, des bilans, des réflexions, voire des essais sur le sujet ? Que je sache, les créateurs, les peintres, les musiciens n'utilisent pas la peur du virus pour créer. Alors, aux écrivains de faire pareil.
Eh oui, il y a de plus en plus de livres sur le coronavirus, sur la pandémie, et on dit tout et n'importe quoi. Vous avez raison de le souligner, y compris dans les médias, disons les choses. Merci Dominique. Un coup de cœur en France, Thomas Auxerre. Rayon Poésie, je crois, Thomas.
Et oui, un vrai coup de cœur pour Brûler. C'est un recueil de poèmes et de textes poétiques engagés et percutants de Lisette Lombé, c'est aux éditions L'Iconoclaste. Alors la slameuse poétesse, à coups de mots et de collages, décrit les injustices, le racisme, les inégalités dans nos sociétés, mais aussi elle parle d'amour et de liberté. Ah, vraiment, c'est très fort, hein. Ça reste en tête. Moi d'ailleurs, je le conseille aussi à des adolescents, pour ceux et celles qui n'aiment pas trop lire, et puis aussi pour tous les autres qui aiment les textes un petit peu coup de poing.
Grande figure de la scène slam en Belgique, Lisette Lombé, belge d'origine congolaise. Brûlé. Merci beaucoup Thomas. Katia Courtois, un coup de gueule au Canada.
Oui, qui concerne le travail éditorial, en fait. Parce que pour moi, un livre, c'est un tout, hein. Ça doit être un beau paquet cadeau. C'est-à-dire que l'emballage nécessite aussi un peu de soin et d'attention. Il arrive malheureusement qu'il soit bien difficile, surtout en ce qui concerne la littérature jeunesse, quand on est devant des jeunes, pour convaincre ces jeunes lecteurs devant des couvertures inintéressantes, fadasses ou d'un style graphique d'une autre époque. Vivement que certains éditeurs se ressaisissent.
Oui, c'est vrai que parfois c'est pas très attrayant et ce n'est pas Déborah Damblon qui va nous contredire, notre spécialiste littérature jeunesse en Belgique, un coup de cœur, mais pas du tout dans le rayon des livres jeunesse aujourd'hui.
Pas du tout dans le rayon des livres jeunesse, Emmanuel, mais d'un auteur qui a écrit beaucoup pour la jeunesse,
oui.
Puisque
oui.
C'est un poche inédit de Franck Andria, s'il vous plaît, aux éditions Genèse. Alors, c'est pas un cadeau, ça. L'histoire, elle commence en 1969, quand Avrel Dubois, son héros, va rencontrer Bill Babeler. Et ça va très, très mal se passer. Puis ça, c'est que le début de l'histoire, parce qu'ensuite, on va suivre Avrel au fil des femmes qui ont marqué sa vie pendant plus de 50 ans. Et puis, c'est tendre, c'est doux, c'est drôle, c'est parfois complètement allumé comme on aime.
Mm-hmm.
C'est plein de lumière et c'est juste ce qu'il nous faut pour attendre que les jours rallongent.
Avrel, votre personnage, rien à voir avec les Dalton, bien sûr.
pas du tout, ça s'écrit même pas pareil.
Et c'est chez Genèse Édition, hein, pas Genèse Édition. On est perdu aujourd'hui.
Non, non,
hein.
Genèse, bien sûr.
Je comprends plus rien. Depuis Max Lob, on est perdu. Merci. Merci Déborah. Après les confidences d'Eddie de Préto tout à l'heure, voici les confidences de l'écrivain français Régis Jauffray, qui publie en poche son roman Papa chez Point. Régis Jauffray, vous publiez Papa aux éditions du Seuil. C'est un reportage à la télévision intitulé La police de Vichy qui fait apparaître votre père au pied de l'immeuble de votre enfance à Marseille. Cet homme semble être emmené par la Gestapo. Le problème, c'est que dans votre famille, personne ne se souvient de cet épisode. Votre père n'en a jamais parlé. Il n'était pas juif. Et il n'était pas, a priori en tout cas, un héros de la résistance.
Ben non, c'est d'autant plus étonnant que le fait d'avoir été arrêté par la Gestapo, même par erreur, c'était quelque chose qu'on allait raconter à tout le monde. C'était
ben oui, ouais.
Donc c'est un mystère total. Mais au-delà de tout ça, il y a un autre mystère qui est encore plus extraordinaire, c'est que c'est une toute petite rue de Marseille. On est en 43. À l'époque, on filme pas du tout dans les rues. Là, c'est filmé de façon très professionnelle.
C'est mis en scène, ouais, quasiment.
Oui, champ contre champ. Ouais. Donc ça veut dire qu'il y a eu un camion qui est venu une heure avant, qu'on a mis la caméra sur pied et personne n'a souvenir d'un tournage.
Voilà. Alors vous allez chercher cette histoire. On va pas tout raconter, mais vous allez imaginer des choses. Et surtout, les souvenirs vont remonter, Régis Jauffray, avec ce père atteint de surdité qui a eu une relation banale avec votre mère au départ, un voyage de noces que vous racontez qui est très drôle, très banal aussi. Des difficultés à avoir un enfant malgré leur acharnement sexuel. Là aussi, vous le racontez. Une vie tranquille finalement, sans relief. Et votre papa vous a manqué. On se rend compte de ça au fil des pages. Il vous a manqué à sa mort, mais aussi quand vous étiez enfant.
C'est-à-dire qu'il m'a manqué parce qu'il, j'allais dire, il n'existait pas beaucoup, parce qu'il était toujours là, donc c'était pas un père absent au sens physique, mais il était absent parce que bon, déjà, il était sourd total, et en plus, étant sous neuroleptique, c'était pas quelqu'un qui parlait. J'ai souvenir de à peu près aucune conversation sérieuse avec lui, aucune activité que j'ai pu faire avec lui. C'est avec le temps, cette espèce de pitié qu'on peut avoir pour l'enfant qu'on a été, parce qu'on plus.
Oui, une sorte de tristesse rétrospective.
Oui, rétrospective pour cet enfant-là qui n'a pas eu donc de père comme il y avait des pères autour de moi.
Ouais.
Comme les autres enfants avaient un père. Et ça, ça a été un manque que j'ai découvert en écrivant ce livre.
Et c'est cette vidéo qui vous permet de lui imaginer un destin, de lui inventer un destin et des honneurs aussi. Et vous dites, on a le droit de rêver son père.
Bah oui, parce que là, ça me permet de le rêver. Parce que, imaginons qu'il ait été résistant, imaginons qu'il ait été un héros et qu'il n'ait pas voulu en parler. On peut tout imaginer à partir de cette arrestation.
Mmh. Et vous expliquez avec beaucoup de tact et finalement beaucoup d'amour que tout le monde ne peut pas prétendre au titre de papa. C'est un truc qu'on a ou qu'on n'a pas, ça, Régis Jauffray?
Je ne sais pas, puisque moi, le livre, en fait, je ne sais pas si, en fait, ça n'a pas consisté à lui faire gagner ce titre, en réalité. Oui, c'est-à-dire qu'il n'y a pas...
Eh ben justement, oui.
Voilà, c'est autre chose. En même temps, c'est moderne. Parce que le titre de papa, par exemple, au 19e siècle, ça n'aurait aucun sens parce que c'était pas ce qu'on demandait à un père.
Ouais,
ouais. D'être dans l'affection, dans
oui, ça a évolué,
avec ses
ça.
Enfants,
c'est
d'être
vrai.
Proche. Bon, le titre de papa, et en plus, moi, je trouve ça toujours un peu ridicule de dire mon papa, ma maman, etc., quand on a 50 ans ou 80 ans.
Ouais.
Et donc là, je l'ai intitulé papa, mais c'est justifié par le livre. En fait.
Mais c'est vrai que c'est un cri d'affection, Régis. Ce livre, il résonne comme une grande lettre. Quand on a été en manque d'un père ou d'une mère, on construit sa vie de façon bancale. Est-ce que ce manque finit toujours par ressurgir, quel que soit son âge, justement?
Là, il a ressurgi, mais j'aurais jamais pensé écrire un livre sur mon père.
À votre âge?
Oui.
40, 45, un truc comme ça.
40, 45 ans.
Ça vous
voilà.
Plaît, je sais, je vous connais.
On a encore le manque de son père. Oui, oui, tout à fait, je confirme. À 64 ans, j'ai encore eu, j'ai éprouvé ce manque de mon père. Mais là, j'ai pu me le dire à moi, ce que je n'aurais pas pu me dire à moi-même avant.
La librairie francophone, Emmanuel Kérad.
Régis Jauffray, son roman Papa, donc publié en ce début d'année en poche chez Point, à petit prix et à lire. Chaque semaine, nous donnons la parole aux bibliothécaires, quelque part dans la francophonie. Aujourd'hui, c'est la Belgique qui est à l'honneur. On vous emmène à Charleroi. Bonjour Clara Aliboni.
Bonjour Emmanuel.
Vous êtes bibliothécaire à la bibliothèque Arthur Rimbaud de Charleroi, rien que ça. Que voyez-vous, que peut-on voir à travers les fenêtres de votre bibliothèque?
Alors, par la fenêtre, je vois le parc Reine Astrid, un quartier Rimbaud traversé souvent pour aller boire son absinthe au Cabaret Vert.
Ah oui.
Et nous, les bibliothécaires, oui, on a très hâte d'être au printemps pour aller raconter des histoires sous les arbres.
Ah bah oui, oui. Donc, un lieu imprégné d'Arthur Rimbaud.
Oui, oui, oui.
Bon. Quel grand classique de la littérature avez-vous choisi ? Rimbaud, alors, ou quelqu'un d'autre ?
Avec quelqu'un d'autre, parce que comme à Charleroi, il y a un attachement particulier avec le surréalisme, puisque le peintre Magritte y a vécu. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de Robert Desnos, un grand poète qui a fait partie de ce mouvement à partir de 1924. André Breton disait de lui, le surréalisme est à l'ordre du jour et Desnos est son prophète. Alors, il a écrit aussi de la poésie pour enfants, comme La fourmi, qui a également été chantée par Juliette Gréco. Mais c'est le poème intitulé Demain qui a attiré mon attention. Et il fait partie du recueil État de veille, paru chez Gallimard en 1943. Et à travers ce poème, Desnos invite les Français à la résistance. Et je trouve que le texte a traversé le temps et les époques et lu aujourd'hui, là, maintenant, avec tout ce que nous vivons tous ensemble, il prend une nouvelle dimension. Il invite également à l'espoir. Pour preuve, et en conclusion, je vous en lis les derniers vers. Or, du fond de la nuit, nous témoignons encore de la splendeur du jour et de tous ses présents. Si nous ne dormons pas, c'est pour guetter l'aurore qui prouvera qu'enfin nous vivons au présent. Vivons au présent, un beau message en ce début d'année, Emmanuel.
Exactement, et d'ailleurs, bonne année à vous, Clara. Robert
merci,
Desnos
merci beaucoup.
Et son recueil de poésie, L'état de veille, paru en 1943. Merci beaucoup, Clara Aliboni. Merci à la bibliothèque Arthur Rimbaud de Charleroi en Belgique, où on écoute la librairie francophone tous les dimanches à midi sur RTBF. La première, bien sûr, Clara.
Absolument.
À bientôt, merci à vous.
Merci, au revoir.
Au revoir. On termine avec une musique populaire quelque part dans le monde, dans un pays membre de l'OIF. Voici Cheb Wahdi avec Zidini, titre phare en ce moment en Algérie.
والعالم ربي زيديني عشقا زيديني لفيني كملوا هذا فيني نبغيك وانتي تبغيني ورفابور راكي معايا وهميني زيديني عشقا زيديني لفيني كملوا هذا معايا وهنيه عشقك ماشي سهل تروحي عليا نهبل ما يبقاني حتى مورا الحب الأول شامي يتبدل كملها رجلة وكبار
Un extrait de Zidini de Cheb Wahdi, grand succès en Algérie en ce moment. Et c'est la fin de cette édition. Je vous retrouve sur Facebook, Twitter et Instagram pour communiquer avec vous. À la réalisation, Cyril Pascal, avec Rémi Sistiaga à la technique. À la rédaction, Jean-Philippe Verret, avec Christophe Magère et Estelle Gap en France. Jean-Marie Félix et Sophie Grécoutchou en Suisse. René Mikils avec Valérie Le Put en Belgique. Jacqueline Castonguet et Elsa Pépin au Canada. Thierry Dupin était à la prog musicale. La semaine prochaine, le grand voyage francophone continue avec les livres qui font l'événement en cette rentrée littéraire de janvier. Merci pour votre fidélité. Très bon week-end à tous, à bientôt, salut.